Alors ce soir, un seul homme, ou presque, mais alors c'est une planète musicale à lui tout seul, et sans lui, eh bien il y a un cri qui n'aurait jamais résonné aussi fort. Comment oublier ce cri primal, Scentless Apprentice, apprenti inodore, étrange titre. C'était Kurt Cobain, bien sûr, au sein de Nirvana. Fin 1992, le groupe avait publié un ultime album de chansons nouvelles, In Utero, qui avait été enregistré d'ailleurs dans des conditions très très difficiles, très dures, dans un studio perdu au cœur d'une campagne enneigée du Minnesota, sous la direction d'un homme qui, à lui seul, incarnait le credo pur et dur du courant hardcore. Je veux parler de Steve Albini, un homme qui a déclaré un jour que, au-delà d'une semaine, donc voilà, vous avez bien entendu, 7 jours, un groupe perd son temps dans un studio d'enregistrement, ou alors s'il y reste, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Après le triomphe de l'album Nevermind, Cobain avait tenu à retourner donc à ses racines hardcore, une décision à laquelle les responsables de Geffen, la multinationale qui commercialisait les disques de Nirvana, n'avaient pu s'opposer, mais qui les avait, on l'imagine, violemment contrariés. Alors Nirvana, c'était un trio, bien sûr. Il y avait à la basse le géant Chris Novoselic, qui avait fondé le groupe avec Kurt Cobain dans la modeste ville côtière de Aberdeen, hein, à l'ouest de Seattle. Et puis, il y avait un batteur qui les avait rejoints en route et qui n'était pas du coin, Dave Grohl, hein, un peu plus jeune qu'eux d'ailleurs, appelé à devenir, personne ne l'aurait imaginé il y a 30 ans, un pilier du rock américain contemporain avec de bien nombreuses cordes à son arc. En 30 ans de carrière, de fait, Dave Grohl a abordé de très nombreux styles, du thrash metal et du punk hardcore, à la mélodie la plus harmonieuse, parfois en même temps, hein, c'est un peu sa marque. Alors, il a collaboré avec Josh Homme de Queens of the Stone Age, avec le groupe de rock gothique anglais Killing Joke aussi, on l'entendra, et puis il est également parvenu à enrôler dans ses entreprises musicales diverses et variées, certains de ses héros, notamment Paul McCartney, Brian May aussi, hein, le guitariste de Queen, et puis alors en compagnie de son camarade Josh Homme, hein, je l'ai déjà cité, Dave Grohl a carrément créé un groupe avec nul autre que John Paul Jones, hein, le cofondateur de Led Zeppelin. Alors une heure, ce ne sera donc pas de trop pour faire le tour de, je vous le disais, cette véritable planète qu'on finit par composer les multiples activités musicales de Dave Grohl, la moindre n'étant pas celle du groupe qu'il a lancé au milieu des années 90, Foo Fighters, au sein duquel il interprète ses propres chansons et joue de la guitare. Et il s'accompagne aussi, quand il enregistre évidemment, à la batterie. Alors c'est assez curieux la façon dont Dave Grohl s'est joint à Nirvana. En 1990, il avait 20 ans et il avait atterri à Amsterdam après la séparation de Scream, un groupe punk hardcore auquel il s'était joint comme batteur à Washington, où il avait passé ses années de lycée. Alors quand il est à Amsterdam, bah, il squatte quelque part, il fume des pétards, voilà, ça va souvent ensemble, il gagne quelques sous, à l'époque c'était encore des florins, en posant des carrelages. Et un jour, il y a sa copine de l'époque lui fait écouter un truc qui lui explose aux oreilles, c'est l'album Bleach de Nirvana. Il reconnaît ce mélange punk, hardcore et metal qui est pour ainsi dire sa langue d'origine, mais surtout il est subjugué par une chanson qui, comme il le souligne à juste titre, aurait pu figurer dans un album des Beatles et qui s'appelle About a Girl, qui a d'ailleurs donné son nom à un roman de l'auteur anglais Nick Hornby. Hasard étonnant, un musicien ami, hein, qu'il avait croisé au temps de Scream, King Buzzo, des Melvins, d'ailleurs je vous en ai parlé hier dans l'émission d'hier, lui dit que justement Cobain cherche un nouveau batteur. Alors son premier engagement, c'est une séance dans un studio de radio à Londres pour la légendaire émission de John Peel, hein, sur la BBC, les fameuses Peel Sessions. Et l'ambition de Dave Grohl à ce moment-là au sein de Nirvana est extrêmement modeste, je le cite: « Je voulais juste avoir mon propre appart et ne plus avoir à dormir sur le canapé chez Cobain, qui était deux fois trop petit pour moi. » Et puis surtout, il y avait un truc qui le rendait fou, c'est qu'il était régulièrement réveillé par le bruit des tortues que Cobain gardait dans un aquarium et qui régulièrement venait cogner bruyamment contre la paroi vitrée. Mais enfin, tout ça allait changer.
Yeah.
Red War, la voix inimitable du Brésilien Max Cavalera, cofondateur du groupe Sepultura, qui a eu un immense impact dans le monde du métal et d'ailleurs bien au-delà dans les années 90. Dave Grohl avait une dette morale envers Cavalera ainsi que envers d'autres groupes et chanteurs de métal. Il avait découvert leurs albums adolescents, il avait pu en voir certains sur scène dans la région de Washington où il avait grandi. Et cette musique, le métal, a eu autant d'importance que le punk rock dans la constitution d'un courant musical dit hardcore à Washington. Dans lequel s'est inscrit Scream, je vous en parlais, le premier groupe professionnel de Dave Grohl. Alors au début des années 80, au début des années 2000, Dave Grohl a commencé à réaliser une sorte de fantasme, faire appel aux chanteurs des groupes de métal qui, dans les années 80, justement, avaient remué ses tripes d'adolescents, des groupes pas seulement américains d'ailleurs, puisque figure dans la liste des invités des Anglais, le fameux Lemmy de Motorhead, ou encore Lee du groupe des Midlands, Napalm Death. C'est un album donc où il a invité toutes sortes de chanteurs différents, enfin tous de métal, un album qui s'appelle Probot, qui est sorti en 2004, un album dont Dave Grohl a étalé l'enregistrement sur plusieurs années et où il a joué seul pratiquement de tous les instruments. Ce qui a été le cas d'ailleurs des premiers albums signés Foo Fighters, même si Grohl s'est associé à d'autres musiciens et que Foo Fighters est devenu un groupe à part entière. Il a toujours, en tout cas, gardé une approche autarcique de la musique. D'ailleurs, la preuve, le troisième album de son groupe, There Is Nothing Left To Lose, sorti en 99, et dont on a d'ailleurs entendu un titre juste avant la voix de Max Cavalera, Stacked Actors, eh bien, a été intégralement réalisé dans la cave équipée en studio de Dave Grohl, au-dessous de sa maison de Alexandria, près de Washington, dans son fameux studio 606. Alors, il y a un musicien pour lequel Dave Grohl, voilà, c'est ce qu'il dit, est prêt à tout lâcher dès qu'il le lui demande, eh bien c'est Josh Homme, le cofondateur du groupe californien Queens of the Stone Age, et qui considère carrément voilà, comme un frère. Ils ont créé d'ailleurs ensemble, à la fin des années 2000, un trio avec un musicien qui les a l'un et l'autre terriblement intimidés. Je veux parler de l'anglais John Paul Jones, qui est bien plus que le cofondateur bassiste et clavier de Led Zeppelin. C'est un orchestrateur de formation classique. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est lui qui a réglé la partition pour l'orchestration de She's a Rainbow, des Rolling Stones. Alors vous imaginez, voilà le poids qu'il représentait. Et à côté de lui, a d'ailleurs déclaré Dave Grohl, je me sentais musicalement comme une simple miette. On les entendra tous les trois au sein du trio qu'ils ont formé en 2009, Them Crooked Vultures, dans un titre qui s'appelle Dead and Friends. Mais tout de suite, voici une des collaborations dont Dave Grohl est le plus fier, celle pour l'album Songs for the Deaf, chanson pour les sourds, de Queens of the Stone Age, qui est un album qui est paru en 2002. Le titre s'appelle You Think... comment ça s'appelle déjà ? You Think I Ain't Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire. Voilà, tu crois que je vaux pas un rond, mais je me sens comme un millionnaire ou une millionnaire. Voilà, ça arrive. En tout cas, ce soir, c'est dans Very Good Trip sur France Inter.
Give me some more. Good Trip, Mishka Assayas.
I drive.
Blood on Your Hands, un titre signé par le groupe londonien Killing Joke en 2003. Cette année-là, le groupe a publié un album sans titre auquel a étroitement collaboré Dave Grohl, notre héros du jour, enfin du soir, à la batterie, bien sûr. Alors quand on entend ce titre, il y a une évidence qui s'impose, c'est l'influence de ce son typiquement anglais, hein, mécanique et oppressant, étrangement présenté parfois comme froid, alors qu'en fait c'est tout le contraire, sur tout un pan du rock américain apparu à la charnière des années 80-90, le grunge, évidemment. D'ailleurs, prenez une chanson signée Killing Joke en 1985 qui s'appelle 80s et Come As You Are de Nirvana, hein, dans Nevermind, c'est exactement le même riff 6 ans avant. Au point d'ailleurs que les auteurs, les 4 membres du groupe anglais Killing Joke, ont intenté une action en justice contre Kurt Cobain que seul le suicide de ce dernier en 1994 a pu interrompre. Killing Joke n'a d'ailleurs pas influencé que le grunge aux États-Unis. On peut mesurer l'influence de ce groupe anglais sur le métal des années 90 en général. D'ailleurs, Metallica a repris un titre de Killing Joke, et c'est frappant, la chanson qu'on vient d'entendre aurait pu être revendiquée par le grand copain californien de Dave Grohl, hein, Josh Homme, et figurer telle quelle ou presque dans l'album de son groupe Queens of the Stone Age. Alors c'est vrai que l'intolérance et l'esprit de chapelle qui était au fond consubstantiel au rock dans les années 80, mettons jusqu'à la fin du 20e siècle, ont beaucoup reculé, et c'est tant mieux. Mais enfin, il est néanmoins rare de rencontrer un musicien à l'esprit aussi ouvert que Dave Grohl, qui est capable de revendiquer à la fois son amour pour les Beatles, Queen et même Tears for Fears, et oui, que pour des groupes comme Devo, entre parenthèses, c'était un des rares albums que possédait Kurt Cobain dans son gourbi à Aberdeen, puis en même temps, voilà, adorer le groupe Killing Joke ou encore Sonic Youth et Sepultura, hein, je vous en ai parlé. Et c'est indéniablement le cas de Dave Grohl qui explique cet œcuménisme par son ascendance familiale. D'ailleurs, il ne plaisante qu'à moitié. Voici ce qu'il explique. Ses parents étaient divorcés. D'un côté, il y avait sa mère, une enseignante de gauche, professeur à l'école publique, et puis de l'autre, un père totalement à l'opposé qui gagnait sa vie en écrivant les discours d'un homme politique du Parti républicain, à droite, bien sûr. Et comme l'a résumé Dave Grohl, eh bien, ma position, c'est d'être au milieu. C'est pas simple, mais c'est mon destin. Alors voilà, il y a tout un pan dans l'abondante discographie de Foo Fighters qui clairement l'inscrit dans un courant entre punk et pop, soit l'énergie frénétique du punk rock et les mélodies liées à l'enfance, pleines de joie et de lumière, celles des premiers Beatles, qu'adorait d'ailleurs aussi Kurt Cobain. Alors il y a un groupe du Midwest, Husker Du, qui a été le premier à conjuguer ces deux courants, et d'ailleurs il a profondément marqué Dave Grohl et les débuts de Foo Fighters. Ce titre s'appelle Monkey Ranch, clé à molette, hein, drôle de titre pour une chanson, et il figure dans le deuxième album donc de Foo Fighters, The Color and the Shape, qui est paru en 97 et qui a connu un immense succès et qui évoque à s'y méprendre le style du trio californien Green Day. We'll be right back.
Inter.
On sent que Dave Grohl a beaucoup écouté Queen, hein, c'est flagrant dans ce titre « The Sky is a Neighborhood » et qui figure dans un album récent signé par Foo Fighters, « Concrete and Gold ». Alors il y a un commentateur, je ne sais plus lequel, qui a décrit cet album comme, je cite, une sorte de Sgt Pepper qui aurait été interprété par Motorhead, ce qui est pas mal trouvé. Alors je vous parle de Sgt Pepper, voilà qui m'amène naturellement au titre suivant. Comme je vous disais, Dave Grohl partageait avec Kurt Cobain la même obsession pour les Beatles et il a pu réaliser un fantasme que certainement une infinité de musiciens a dû partager avec lui, que Nirvana accompagne par exemple Paul McCartney. Eh bien, ils l'ont fait. Cobain, évidemment, bon, n'était plus là, mais il aurait sûrement été très fier pour lui et ses copains. En décembre 2012, un concert a été organisé sur la scène du Madison Square Garden à New York. Il s'agissait de lever des fonds pour les victimes de l'ouragan Sandy, qui avait été le plus meurtrier du nouveau siècle, hein, qui avait fait plus de 200 victimes. Et McCartney s'était associé pour la circonstance avec les membres survivants de Nirvana, Dave Grohl à la batterie, Chris Novoselic à la basse et aussi Pat Smear qui était le guitariste d'appoint du trio sur scène. Alors la chanson Cut Me Some Slack avait été improvisée quelques mois auparavant dans un studio de Los Angeles par les quatre hommes, donc McCartney compris, hein, pour les besoins du documentaire Sound City que Dave Grohl avait réalisé sur un studio légendaire de Los Angeles. Alors il y a aussi une chose, c'est qu'on se rend compte que d'une certaine façon, Paul McCartney, l'homme qui avait hurlé Helter Skelter, quand même, dans le fameux double album blanc des Beatles en 68, avait lui aussi, à sa façon, peut-être un fantasme chanté avec Nirvana.
I let them go. Just so.